Pour l'émission du mois d'avril, nous vous proposons trois sujets. Laetitia qui va nous présenter le livre « Les soldats qui ne voulaient plus se faire la guerre ». Ensuite, une interview de M. Baquet qui nous présente son projet entre le collège et le musée départemental pour une banderole sur le thème de la caricature et de la guerre. Et enfin, une interview des 3e 4 et 3e 6 qui réalisent les dessins du projet. On les a donc interrogés en classe d'art plastique avec Madame Verlinden, la conservatrice du musée, et Monsieur Baquet. Sont interviewés ici Maxime, Samuel, Jade, Amélie, Nicolas, Sarah et Amy.
Je vais vous présenter le livre « Les soldats qui ne voulaient plus se faire la guerre », Noël 1914, d'Éric Simard et Nathalie Girard pour les illustrations. Éric Simard est né en 1962 à Joigny. C'est un écrivain français. Jeune, il voulait devenir basketteur professionnel, mais il n'a jamais réussi. Il a donc fait autre chose. Il a intégré l'INSA de Lyon et a obtenu un diplôme de biochimie. Il a ensuite travaillé en librairie et a décidé d'écrire ce qu'il a fait. Il a effectué beaucoup d'œuvres, comme « On a volé mon vélo »,« Je te sauverai »,« La maison de l'éventeur » ou encore « Le sortilège des fourmis ». Donc, pour revenir au livre, c'est un roman historique. On nous parle de la Première Guerre mondiale, donc de faits historiques. L'histoire se déroule pendant la Première Guerre mondiale, 1914-1918. En décembre 1914, en France, à l'ouest de Lille. Et elle se déroule précisément dans les tranchées. Scoot Backwood, le personnage principal, il a 20 ans au début de l'histoire et c'est un soldat écossais coincé dans les tranchées. Sa situation ainsi que son aspect physique ne sont pas expliqués. Par contre, on sait que c'est quelqu'un de courageux, de gentil et de serviable. Kurt Friedheim est aussi un personnage important dans le livre. C'est un soldat allemand. Sa vie et lui ne sont pas décrits, mais ce qu'on sait, du moins, c'est qu'il a sympathisé avec Scott lors de la trêve dans les tranchées et que les deux hommes se sont liés d'amitié et ne se sont jamais oubliés. Pour revenir au livre, les soldats des troupes britanniques et allemandes s'opposent sur le front et Noël va bientôt arriver, en 1914. Scott est un soldat écossais. Il explique comment se passe la vie dans les tranchées, donc les conditions de vie qui sont très difficiles, le froid, la boue, les rats, les vêtements identiques et aussi tous les morts qui sont nombreux. Mais le jour de Noël, les Allemands décident de faire une trêve avec les Britanniques qui acceptent. Ils échangent des cigares, discutent, rigolent et font même un match de foot ensemble. Scott sympathise bien avec un Allemand, mais malheureusement, cette trêve sera de courte durée. La guerre reprend comme avant. Les soldats, bien sûr, des deux camps ne veulent pas, mais ils n'ont pas le choix. Et Scott raconte dans la suite du livre les combats, ainsi que sa vie après la guerre. J'ai lu un extrait qui m'a beaucoup plu, donc je vais vous le lire. Kurt m'explique comment il vit dans sa tranchée. Le froid, la vermine, la recherche d'un endroit sec pour dormir, les lettres de sa famille. Je réalise que chacun de notre côté, nous surmontons les mêmes épreuves. Dans cet extrait, on montre que les Allemands et les Écossais, finalement, ils sont identiques. Les Allemands, ils veulent arrêter la guerre, ils en ont marre, ils ont des conditions de vie difficiles et ils n'aiment pas tuer les gens, tout comme les Écossais. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié ce passage. Et pour finir, j'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai trouvé très intéressant, captivant et instructif. La vie des soldats est racontée précisément et réellement comme elle s'est passée, ce qui est constructif et intéressant. On comprend l'enfer qu'ont vécu tous ces soldats et pourquoi ils ont fraternisé avec leurs ennemis. Ce livre est facile à lire parce que le vocabulaire est compréhensible et simple. Il n'y a pas énormément de pages et des illustrations sont présentes, donc c'est assez agréable. Les mots sont écrits en gros, il y a des dialogues, des paragraphes et le format du livre est plutôt petit. Le seul petit point négatif, c'est que vers la fin de l'histoire, les événements passent un petit peu trop rapidement. Mais dans l'ensemble, c'est un bon livre et je vous conseille de le lire.
La butte rouge, c'est son nom, le baptême suit un matin, où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, qui boit de ce vin-là, boit les larmes des copains. Sur ce but-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de marlou ni de bon muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la galette et de Paname qui est le roi des patelins. Ce qu'elle en a bu des larmes, cette terre, larmes d'ouvriers, larmes de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais car ce sont des tyrans. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême suit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, à des vignes, il y pousse du raisin. Qui boira ce vin-là, boira le sang des copains. Sur ce but-là, on y faisait pas la noce, comme à Montmartre où le champagne coule à flot. Mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient tant de terribles sanglots. Ce qu'elle en a bu du beau sang, cette terre, sans d'ouvriers, sans de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on tue que les innocents. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême se fit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Mais moi, j'y vois des croix portant le nom des copains. Sur ce but-là, on y refait des vendanges, on y entend des cris et des chansons. Filles et gars, doucement, y échangent des mots d'amour qui donnent le frisson. Peuvent-ils songer dans leurs folles étreintes qu'à cet endroit où s'échangent leurs baisers, j'ai entendu la nuit monter des plaintes et j'y ai vu des gars au crâne brisé. La butte rouge, c'est son nom, baptême suit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Qui boit de ce vin-là, boit les larmes des copains.
Alors, pour l'émission de ce mois-ci, des élèves Montaufrond, les élèves du Collège Centre, on va vous présenter une série d'interviews qui ont été prises dans la salle d'art plastique ce lundi. Donc c'est dans la continuité de ce qu'on a mis en place avec Monsieur Spitalier, le professeur d'histoire, et donc moi-même, Christian Baquet, en art plastique, avec les élèves de 3e 4 et de 3e 6. Les interviews que vous avez, les extraits que vous pourrez entendre durant l'émission, les élèves sont interviewés par Anne Verlinden, qui est donc la conservatrice du Muséum départemental de Gap. Ça fait suite à un travail fait en classe, les élèves ayant été voir l'exposition Le regard de l'autre au Muséum de Gap. Il leur a été proposé de réaliser un dessin qui sera agrandi et qui sera un oriflamme de présentation du lien entre le collège et le musée, et qui sera donc exposé en permanent à l'entrée du collège centre. Donc les élèves avaient à s'exprimer suite à la visite de cette exposition. Ce qui leur était demandé, c'est plutôt leur regard de collégiens aujourd'hui par rapport à la guerre. Ils pouvaient faire des références tout à fait directes à ce qu'ils avaient vu dans l'exposition ou élargir la question de la guerre au quotidien éventuellement, en abordant des questions liées au terrorisme, les combats qui peuvent avoir lieu actuellement en Ukraine, donc c'est-à-dire notre actualité immédiate. Ils n'avaient pas de limite plus posée que ça, l'objectif étant plutôt de les impliquer le plus largement possible dans la conception de cet oriflamme et d'accentuer donc sur ce regard. Donc le regard était porté sur la guerre, mais aussi sur les questions de la paix. Et je pense que voilà à peu près ce qu'on peut retenir de cette démarche-là. Il y avait une volonté au départ du musée de penser en fait l'exposition que nous souhaitons faire avec eux au mois de juin comme un questionnement général sur la guerre. Donc, le travail qu'ont réalisé les élèves s'inscrit dans une démarche globale, on peut dire, de la muséographie contemporaine, qui est de penser l'exposition non pas comme un simple regard historique sur le passé de cette guerre, mais plus dans une volonté de penser le musée comme un lieu vivant où le regard sur la guerre évolue. Les élèves pouvaient prendre les portes d'entrée qui les intéressaient par rapport à l'exposition, puisque pour ceux qui ont vu cette exposition, il y a un regard sur les combats eux-mêmes, mais sur ce qu'ont pu vivre les civils, notamment ceux qui pouvaient vivre en Picardie ou près de Verdun, dont les maisons étaient ravagées, les familles plus ou moins agressées par l'occupant allemand. Dans ce travail, l'objectif, c'est de montrer aussi aux élèves que l'exposition qui aura lieu au mois de juin n'est pas une exposition qui est déjà arrêté dans son schéma général, mais que nous continuons à construire avec les élèves au fil de ce qu'ils nous apportent à travers des travaux en art plastique, mais aussi un travail d'écriture qui est mené dans les cours d'infrapoli et tout ce travail d'interview qui a pu être mené sur ces dernières semaines avec les élèves. C'est ce contenu-là qu'on essaye de penser comme une réflexion en train de se construire qui sera aussi prolongée dans cette exposition où nous, on utilisera un espace mais qu'on fera peut-être évoluer au fur et à mesure de l'exposition.
Pourquoi c'est si important pour vous de faire participer les élèves sur ce projet ?
D'abord, c'est parce que c'est au cœur en fait du programme d'art plastique de 3e où l'épreuve d'histoire des arts, la plupart des œuvres qui seront choisies par les élèves seront quand même des œuvres qui auront un lien à des engagements politiques de la part d'artistes. Et je pense que ces œuvres restent vivantes, elles servent de modèle à partir du moment où elles sont comprises dans leur contexte et qu'elles peuvent encore parler à des élèves d'aujourd'hui sur la nécessité de comprendre le monde pour construire un regard de citoyen au fur et à mesure. Donc il me semble que là on avait une occasion idéale à travers le croisement de l'enseignement de l'histoire et de l'art plastique et aussi cette ouverture sur le musée qui nous permettait aussi d'aller voir des expositions et en même temps de construire avec eux le travail fait par les élèves tout au long de l'année.
Il finissait en débutant, les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents, entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être, 15 heures par jour, le corps on laisse au visage un teint de cendre. Oui notre monsieur, oui notre bon maître. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu, lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux de quelques ceux qui refusaient
de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? 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 Si par malheur ils survivaient, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir aux champs d'horreur leurs 20 ans qu'ils n'avaient plus naître. Et ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui notre bon maître, couvert de prêtres, oui notre monsieur. Demandez-vous belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? 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 Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Donc là, on a un travail qui n'est pas terminé, Maxime. On ne voit pas encore quel est tout à fait le point de vue que tu vas adopter. En fait, cet grand espace vide, tu vas l'utiliser pour nous dire quoi? Comment tu vas? Est-ce que ça a une conclusion à l'histoire?
Je veux faire les soldats qui sont heureux de partir à la guerre et en revenant qui sont complètement détruits par la guerre et démoralisés.
D'accord. Donc tu fais, tu traduis une période de temps et une période de vie et aussi un espoir et un désespoir.
C'est ça.
Alors, je pars en guerre en m'imaginant que je suis le plus fort et que je vais gagner. Je reviens de la guerre et une part de moi-même a été amputée, démolie et il y a une expérience qui s'est passée. Et mon corps emporte la trace.
C'est ça.
C'est ça?
Oui.
C'est bien. Tu as vu l'expo au musée? C'est
oui,
ça
oui.
Qui t'a inspiré?
Oui.
Et tu as vu les bâtons de poilus, les bâtons sculptés? T'as pas fait attention?
Ah non.
En fait, sur leurs bâtons, ils ont représenté, il y en a un, il avait mis un trèfle à quatre feuilles, il a mis les initiales de la personne qu'il aime. Si tu veux, donc du coup, le bâton, il incarne presque, il représente presque son histoire et son corps. On a trois bâtons qui sont, trois cannes de poilus qui sont représentées. Et donc, on pourrait avoir ton dessin dessus, en fait. Merci. Tu choisis quelqu'un d'autre? T'as pas d'idée?
Non.
Avec tout ce qu'on a dit, t'as pas d'idée? Quand tu étais petit, tu jouais pas à la guerre?
Non.
Et à la paix, tu jouais?
Ouais.
C'est pas le mot de la paix?
Mais c'est quoi la paix? C'est quand tout se passe bien, enfin.
Comme à l'école, par exemple, aujourd'hui.
Tu t'es jamais disputé avec quelqu'un?
Non.
Tu disputes avec personne?
Ouais.
Si, avec moi.
Ouais, si, avec toi.
Il est quand on se dispute avec lui?
Il est méchant. Il est énervé. Il ne veut pas te parler.
Il est
en méchant. Tu doutes?
Non.
Oui, il me frappe aussi.
Il y a une propagande, hein, parce que j'imagine mal ça.
Mais
ils ont une capacité à réécrire l'histoire. Hein, Kylian, tu as une grande capacité à réécrire l'histoire, toi.
Ouais.
Ah bon?
Oui. Non. Je me dispute, mais pas avec mes points.
C'est un poète. C'est le poète du fond de la classe.
C'est bien. Mais oui, mais c'est bien pour parler de la paix, justement. Il en faut des poètes, heureusement.
Non, mais lui, il a des choses à dire, mais il n'a pas l'impression que c'est important ce qu'il a à dire, je pense. Surtout.
Alors dis-le doucement.
Ouais. Non, mais je sais pas. Je sais pas quoi dire.
Parce que cette année, on a fait d'autres sujets dans
si
l'année sur la.
Si je viens vers toi, que je te bouscule. Tu te laisses faire?
Bah oui, parce que c'est vous.
Si tu ne connais pas que je suis en rue et que.
Bah oui. Enfin, je vais le repousser.
Tu essaies de me calmer, tu dis oh.
Bah ouais, je le repousse.
Même pas, tu dis oh, se calme, hein, tu passes ton chemin. Tu dis bon, ça va, je la laisse, elle est agressive.
Tu nous as fait un travail cette année, je me souviens maintenant, parce que je savais que tu as travaillé, on a travaillé sur les dictateurs en général. Tu nous avais montré justement Hitler qui nourrissait, tu te souviens un peu ce que tu avais fait?
Non, ça ne parle pas.
C'est dommage que tu ne t'en souviennes plus, qu'il nourrissait des colombes. Tu
quels
te souviens
sont
plus
les...
de ça?
Quels sont les gestes de paix? Quels sont les gestes de paix? Qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire la paix avec quelqu'un? C'est déjà le vêtement. Qu'est-ce qu'on agite comme couleur?
Le blanc.
Et bien voilà. Donc on n'est pas partisan, on met une couleur qui est une autre possible, qui est une couleur. On agite le drapeau blanc. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait?
Bon, le vêtement.
Donc on montre qu'à un moment donné, on a déposé les armes et on se rend. Donc on lève les mains comme ça. Et puis après, quand on arrive à s'entendre, qu'est-ce qu'on fait?
On sort la main.
On sert la main, voilà.
Je m'appelle Jade et je suis en troisième 4. En fait, j'ai fait un paysage très sombre avec vers le centre un arbre sans feuilles ni rien, enfin mort presque. Aussi à côté un chemin qui est aussi avec des couleurs très sombres et tout le tour aussi avec des plantes soit mortes soit sombres pareil. Et j'ai fait un enfant qui lui est avec des couleurs parce que il est encore innocent, il se rend pas vraiment compte ce que c'est la guerre, donc du coup je l'ai fait avec des couleurs beaucoup plus claires que le paysage, parce que le paysage j'ai voulu représenter les dégâts de la guerre, que voilà. Et voilà.
En fait tu es entre un monde détruit et un monde à construire, c'est ça? Et entre un monde passé et un monde à venir, hein? Tu as pas mis un vieillard, tu as mis plutôt un enfant. Et puis le chemin, il est pas si noir que ça en fait, hein, quand même. Il est praticable quand même. Mais c'est bien, il est bien ton dessin, hein, franchement. Tu en sors bien, tu vois bien l'espace. Hein, bien. Voilà, tiens bien. Tu choisis quelqu'un?
Amélie Pitoun. Amélie.
Jean Pitoun. Alors Amélie, raconte-nous.
J'ai représenté c'est un Allemand qui frappe un enfant et la femme derrière, on peut supposer qu'elle a été battue ou violée.
Elle peut rien faire.
Voilà. Et voilà, parce que j'ai mis ça parce que je pense qu'avant c'était accepté et qu'aujourd'hui c'est puni par la loi. Donc, voilà.
Alors moi, ce que j'aime bien dans ton dessin, c'est que tu l'as fait très gros, très imposant. La femme, elle a presque plus de visage, elle se cache le visage dans les mains. Et elle est toute frêle, hein, elle a on la sent pas costaud, quoi, hein, à côté de lui. Et puis, lui, à la fois, il se rend, il implore un peu, hein, il prie, mais non, arrêtez de me taper. Et en même temps, il est innocent. En faisant ça, tu le montres, on sent pas qu'il envoie des coups de pied, il se défend pas. Il accepte son sort tout en implorant et en essayant de le satisfaire. Et lui, tu lui as donné une expression très méchante. Et effectivement, la main, il n'en a qu'une, enfin, il a une main qui tient et une main qui tape. Effectivement, tu as bien représenté la violence, en fait. Et c'est une violence subie. Ce n'est pas une violence choisie. Et en fait, je crois que la guerre, c'est aussi une violence subie. Il y a des gens hein, qui la veulent et qui la provoquent, mais il y a des gens qui la subissent. Et que ce soit une femme ou un homme, finalement, c'est plus important même. C'est-à-dire qu'on est faible comme un enfant quand on subit la guerre. On est dur comme ce bonhomme-là si on est violent soi-même. Et puis, on a forcément du chagrin si on ne peut pas défendre, si on se trouve démuni. Je trouve que ça résume très bien et vraiment bien. Bravo.
Ah, je m'appelle Nicolas.
Voilà. Est-ce que la guerre, ça te fait penser à des larmes?
Des larmes? Peut-être quand les soldats ne reviennent pas à leur famille, plutôt.
Et dans quelle couleur?
Surtout les familles, oui.
Les familles.
Oui.
Des fois, on parle de larmes de sang. Ça te parle, ça?
Non.
En fait, on dit que les larmes, elles sont salées. C'est de l'eau, normalement. Hein, et les larmes de sang, c'est parce que, justement, on ne reverra plus jamais la personne. Hein, puisqu'il y a eu des massacres aussi. Hein, il y a une très grande souffrance et cette souffrance, elle a atteint donc le sang, elle a atteint la lignée, elle a atteint la descendance. Et Si je te parle de lettres de soldats à leur famille, ça te parle? Tu en as vu quelques-unes?
Oui, au musée de Gap, on a vu des lettres. On a aussi étudié en français. Et des fois, c'était des lettres où les soldats étaient fusillés par par leurs commandants parce qu'ils avaient ils avaient déserté ou...
Dans les lettres, il y en a une qui dit « Maman, tout va bien, ton fils pour la vie ». Si tu reçois ça, tu es décontracté ou...
Pas trop, parce que ça veut dire qu'il reviendra peut-être pas.
Et voilà, ton fils pour la vie, rien que le mot « pour la vie », ça change toute la lettre. Il aurait mis juste ton fils, ça suffisait pour rassurer. Mais ton fils pour la vie, ça montre que c'est très très important. Ce qui se joue, c'est toujours entre la vie et la mort. Et donc il a peur de ne pas revoir sa maman, etc. Hein? Et puis pendant la guerre, les lettres, c'est important parce que les lettres montrent combien l'école a été utile et combien le fait que toute la population quasiment savait lire et écrire. Et donc ça a permis des échanges entre les personnes. On aurait été à une époque où les gens ne savaient pas lire et écrire, il n'y aurait pas eu toutes ces correspondances entre les familles. Voilà. Hein? Donc tu vois, tu as déjà un travail à faire. Tu pourrais presque faire une lettre. Si jamais on te disait « demain tu pars à la guerre », qu'est-ce que tu fais? Tu fais un message? Tu laisses quelque chose à quelqu'un?
Sûrement.
Donc tu vois, tu auras... Il n'y a pas que quelque chose d'oral. On a envie de laisser un objet, de laisser un petit mot. On a envie de garder un lien. Et le lien qu'on garde, ben, c'est souvent des mots ou un petit objet qu'on va cacher ou une petite mèche de cheveux. Quelque chose qui se transporte très vite. Quand on est en danger, ben ça, c'est un peu comme un doudou quand on est petit, ça paraît idiot, mais on a envie d'avoir son petit doudou avec soi. Voilà. Merci. Tu choisis quelqu'un d'autre ?
Qu'est-ce que tu as voulu représenter pour le dessin, pour le collège ?
L'invasion des Allemands dans la France. Et l'incapacité de la France à... Enfin, voilà. Allez, battre.
Comment tu l'as représenté sur ton dessin ?
J'ai dessiné un aigle, c'est l'emblème de l'Allemagne. Et pour représenter la France, j'ai représenté la Tour Eiffel qui a peur de l'aigle.
Comment t'as réagi lorsque M. Baquet a proposé ce sujet ? T'es inspirée ou pas du tout ?
Pas trop. Je me suis aidée d'une caricature pour l'aigle qu'on a vu au musée. Et... Après la Tour Eiffel, c'est venu tout seul.
Bah, merci hein, pour ces petites questions, petites réponses. C'était la 3e 4 du Collège Centre avec Sarah Provençal en dernière interview. Amy, qu'est-ce que tu as voulu représenter sur ton dessin ?
En fait, j'explique ce que j'ai fait. En fait, j'ai mis une personne sur un poteau où il y a une arme qui lui tire dessus et derrière, il y a des personnes en ligne qui se tiennent la main et qui sont tristes.
C'est-à-dire qu'eux, ils vont être fusillés comme le...
Non, ils regardent la fusillade de la personne.
Et donc, eux, ils ne peuvent rien faire, ils n'interviennent pas.
Oui, c'est ça.
Et c'est l'arme de personne, hein, c'est ça. Il n'y a personne qui tient l'arme, elle tire toute seule, c'est ça.
Oui.
Il y a un artiste intéressant derrière ça.
Il y a un artiste dont j'ai plus le nom, mais qui a fait une sculpture. C'est un pistolet avec un nœud.
Oui, c'est pas Pistoletto d'ailleurs.
C'est Pistoletto, je crois bien.
Je crois bien.
Et en fait, il peut plus tirer. Parce qu'on en a fait un nœud.
Oui, ouais, je vois.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Quel message?
De toute façon, dans les gags de dessins animés où on va boucher le pistolet, ça éclate, voilà. C'est l'arroseur à rosé.
Voilà.
Il a presque rien inventé en faisant ça, en fait.
Quel message t'as voulu faire passer par ce dessin?
Que des personnes innocentes ou qui n'ont pas fait beaucoup de mal, elles sont tuées pour rien, comme ça.
Comment t'as réagi lorsque M. Baquet a présenté le sujet? T'étais inspirée ou pas?
Non, je savais pas trop quoi faire, j'ai changé plusieurs fois d'idée.
Merci.